Think Tank.
Zennlustig.
Reflexion. Sport und Staatsbürgerschaft.
Sport a Obtjansti.
Euradio Nantes vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne.
Bienvenue sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du think tank Sport et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'organisation des grands événements. Quel héritage pour nos citoyens ?
Cette émission qui sera également en anglais, donc ce thème qui sera traité, donc des Mega Sports Events, Which Legacy for the Citizens ?
Cette émission sera animée par Inès Boutard et Maxime Leblanc pour le think tank Sport et Citoyenneté.
Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'émission Sport et Citoyenneté. Nous recevrons aujourd'hui comme invité sur le plateau Jakub Kalinowski, président du conseil de Volunteers for Sport Foundation, Matthew Philpott, network leader de European Healthy Stadia Network, Alain Harvin-Béraud, philosophe et administrateur du think tank Sport et Citoyenneté, ensuite Florian Kerzero, doctorant sur les grands événements, facteur de développement territorial, et enfin avec nous également Jean-Bernard Lugadet, secrétaire de l'association Tchèchk, le comité des initiatives franco-polonaises de Nantes et de sa région.
Aujourd'hui, plusieurs problématiques seront abordées, deux principales: comment construire une communauté à travers l'événement,
et comment créer un héritage pour le pays d'accueil et ses citoyens, notamment en termes de création d'emplois, de développement durable, d'aménagement du territoire et de projets annexes.
Donc pour nos amis anglais, how to build a community thanks the event and how to create a real heritage for the host country and its citizens, like job creation, sustainable development, territory plan and other projects. L'émission sera donc en deux parties, la première en anglais et la deuxième partie en français. Donc nous espérons que les auditeurs tiendront le rythme avec nous tout au long de l'émission. Chaque partie sera divisée en deux points,
Inès.
Exactement. La première, on parlera de l'héritage des citoyens après un grand événement. Et la seconde, l'héritage pour les citoyens, est-ce une utopie ou est-ce vraiment vrai ?
Nous allons le voir, Inès. C'est pour ça que nous accueillons ces différents invités.
Mr. Kalinowski here with us. That represents the Volunteers for Sport Foundation.
Nous avons également aujourd'hui en plateau Matthew Philpott. Matthew Philpott, do you hear us?
Hello, good evening to you. It's Matthew here.
Hello, Matthew. Matthew is the European lead at LC Stadia. Welcome to Euradio Nantes. Could you introduce yourself and present us what is LC Stadia Network?
And many thanks for inviting me to discuss these issues this evening. My name is Matthew Philpott, and I'm the network lead for the European Healthy Stadia Network. We have worked with Stadia within the UK, firstly, and now across Europe in 15 different countries for about 7 or 8 years now. And what we try and do is try to affect policy change, to try and get health-related policies as part of clubs and stadia directives, and also to try and help to structure and to roll out health-related health promotion projects that can run from stadia as hubs of communities.
So what kind of projects do you lead concretely on the field to put forward those important matters like health that you just mentioned?
Well, it depends whether you look at this in a policy or a practice context, but some concrete examples of that are to try and raise levels of physical activity. We can try and work with Stadia to develop and to promote what are known as active travel plans. So these are type of plans that try to promote walking and cycling to and from Stadia, and they can have information on how to arrive at a stadium on foot or by bike, where cycle locks are at the stadium, and also how clubs can help to promote that through their website, so some advice on communicating that. Another example would be to try and work with catering departments and commercial departments within a football or a rugby club to try and make them offer at least one healthier food option. So that might perhaps be some sort of healthier baguette, perhaps a brown bread and tuna baguette, or with traditional items such as French fries or, in the UK, pies, to try and make them lower in salt content, lower in saturated fat content, and to use preparation techniques that are also lower in fat.
Okay, brilliant. I think we understand the message here. Concretely, who helped you shape this policy? How do you relate with the bodies that are responsible for the events? Did you, by the way, get involved in the Euro 2012 in Poland?
Well, yes, we were. I'm glad to say that we were. To answer that immediate question, ourselves and the World Heart Federation and also WHO Europe, in particular their Polish department, we worked directly with UEFA to try and develop a tobacco-free tournament policy, which UEFA announced in October last year, in 2011. And that tobacco-free policy covers no smoking with inside stadia, but also no sale of cigarettes or other tobacco products, and also, quite importantly within an Eastern European context, no promotion of those products either. So we think that we've made quite an impact, because this is the first time that UEFA have upheld a tobacco-free policy at their European Championships.
Jakub Kalinowski is your partner in this project. Jakub Kalinowski, hello.
Hello, everyone.
Hello.
Jakub is the chairman of the board of Volunteers for Sport Foundation. Do you hear us, Jakub?
Yes, I can hear you very well, yeah.
Okay.
Hello.
Could you introduce yourself a little bit and tell us a little bit more about Volunteer for Sport Foundation?
Okay. Hello, everyone. Well, Volunteers for Sport Foundation is the organization that has been established already over 3 years ago in Poland. Our main focus and main area of expertise is volunteerism in sports. What we do, we help the Polish sports organizations, and not only the Polish ones, but also the ones from outside of the country, in order to develop a strategy, a long-term strategy for every organization on how to deal with the issue of volunteering, on how to promote, how to involve, how to acquire volunteers for the sporting events, but also for a long-term cooperation between the two. So we help the organizations to find the appropriate people to help them, and we also help the volunteers to find a proper organization where they could work, where they could volunteer for. So and the main tool that we use for that is the international portal we have created. It's the volunteersforsport.eu. And it helps both sides to get together, get to know each other, and to involve and invest and organize different events and work together on a daily basis. And apart from that, we are very much involved with different projects around sports that tackle different social problems. And one of the biggest projects we have been involved, we are still involved, is the Respect Your Health EuroSchools 2012, which is the official community health education program for the UEFA Euro 2012 in Poland. So I guess that's a bit of a background for our organization.
Okay, so if I get it straight, the idea of your project is to develop real tools and to be able to use them everywhere in Poland and beyond. How do you accomplish that? Going back to the topic of this show, how do you relate it to the legacy for the citizens?
Our main idea, and before we actually joined or we actually got involved with the official UEFA official community development program of the UEFA Euro 2012, our main focus was to answer the question whether this project will bring or will leave any legacy at all. Since we were not interested in being involved into a project that does not bring any legacy. So the first thing we actually did was trying to identify the possible aspect of our impact, and that's what we have started actually to speak about the project. So the first step with our partners, with our key partners, Street Football World, and also the other partners which Matthew has mentioned who have been involved in our project, was to answer the question, what can be the legacy of the Euro 2012, what can be the legacy of our project, Respect Your Health? And here we have accomplished, I can say that now, we have accomplished a lot of that, and it's mainly due to the fact that we have decided to design the actions in the way that we could actually, after the project has ended, we leave a long-lasting legacy in Poland. And just to give you a bit of an idea about what we've done, so our project was mainly concentrating on the trainer approach. So the idea was not to run the activities by ourselves, but was to teach people, the animators who work with kids, who work All right. with different social groups.
That's a good question. What kind of legacy does this project bring, really?
Okay. So the first of all, this very important thing and something that we really are fond of and proud of is the approach that we have used. That's the train-the-trainer approach. And so after the project, we will have a vast network of animators, teachers who have been involved in our project and have been trained by us or by different organizations we have already invited to take part in the project. They will be here. They will be in Poland. They will continue and carry on working far beyond the football pitch, and will disseminate that.
So if I understand right, it's all about sustainability. Matthew, exactly. How to improve the health of the population on a sustainable basis? How do you continue to get this message passed to the population after the event?
Well, I think that's a really good question, and I think there are probably two main ways that you could do that. And as Jakuba has already mentioned, I think the train-the-trainer approach is an excellent way of skilling up volunteers and community workers within those host city populations within Poland and Ukraine. And that will hopefully go a long way towards disseminating and dripping down and improving levels of health literacy. So people's understanding of very simple actions that can be taken to improve their lifestyle, whether that be giving up smoking, being more physically active, not drinking as much, or having a better diet. So that's one way at community level, at grassroots level, that legacy can be improved. Another way is at population level, and that's the level in which you can actually introduce a policy that is trying to improve the health of a nation or of a region. So, for example, in the Ukraine, you may well be aware that actually just in the last 2 months, the law has been passed to prevent smoking in public areas. So there has now been a smoke-free law, and we've done quite a lot of lobbying work, as have a lot of other NGOs and lobby groups around trying to introduce smoke-free law in the Ukraine. So it's an act of politicizing and restricting some of those key lifestyle factors that have a direct impact on all of the health of that population. So I'm not necessarily saying that Euro 2012 has actually made that happen in the Ukraine, but it certainly helped to fuel the debate and certainly helped to actually get that law passed and to politicize the idea of tobacco-free law within that country.
Okay, and according to you, which sociological impact an international sporting event has to the inhabitants and host countries?
Well, it's interesting you mention that, because there was a paper that was written up and published 2 years ago in the British Medical Journal. And that was a systematic review of pieces of research into the health and socioeconomic impacts of major multi-sports events. And the main findings were that actually the data did not indicate any clear negative or positive health impacts of major sports events on host populations. that the main reported outcome was actually an economic benefit, but in terms of a specific social or health legacy that was attached to those events, there wasn't anything concrete to work with. So I think that what we're seeing now this year in terms of the Euros in Poland and Ukraine, and hopefully some of the work that's going on with the London Olympics as well, will genuinely have a long-term health impact and legacy attached to
exactly.
those
Exactly. We will speak about that after a short musical break.
Cuando ondula la corda, caio no ar vazio, saio de mim, quero parar, eu sou a seta, eu sou um alvo, sou
Sport et citoyenneté.
Studio for the monthly Sport and Citizenship radio show. For the second part, we're going to talk a little bit more about this legacy for the citizens. We had some comments and some opinions already in the first part, but we are more wondering if this legacy really exists, and maybe it's just a utopia. So Mr. Kalinowski, to what extent does a sporting event roots itself into sustainable sport public policies? Do you have today in Poland, in Ukraine, around the Euro 2012, a real policy that supports the actions on the field for a sustainable development of the infrastructures and everything that was set into place for the competition?
I think I can speak for Poland since we're located here, and we've worked around several projects within the Euro UEFA 2012, and I'm pretty sure that there's been a lot of things that have been done prior to the event that will actually also create an opportunity to leave the long-lasting legacy. There's one of the big projects sport infrastructure projects in Poland that has been started some years ago already. It was to build over 2012 mini pitches around the small counties and the cities throughout Poland, and that has proven to be a big success. More than 2,200 mini pitches have been built. There are thousands of people, actually millions of people, using that infrastructure in Poland. So in that area, in the sense of the sports infrastructure that has been created prior to the event, and the Euro 2012 was a trigger actually to use the event, to use the power of the whole event to promote that infrastructure as well.
This has been supported by the European Union, right?
This has been supported mainly by the Polish government and by the local governments as well. So there are millions of people using that, and our project Respect Your Health EuroSchools 2012 was also the one that has worked a lot with animators who are employed on the mini pitches. We call them Orliki, and to train them. So when I mentioned in the previous part of the audition that the train-the-trainer approach we have used in our project, it was mainly focused on the animators who work in the local communities, because this is something that has to be I have to make it clear, is that what we've done, our project is the first area, the first pillar that the project stands upon is the health aspect, health-related issues aspects, but also bringing the local community together, to making people, empower the people from local community, make them more involved in the process of deciding what's happening in their local county on the sport infrastructure that is there.
Could you tell us more about the MOVIT program?
Yes, MOVIT program is a program that has been developed in Finland over 10 years ago, and it focuses on the kids in primary schools in Finland. There are quite a lot of kids who participate in MOVIT every year in Finland, and we have introduced MOVIT program in Poland thanks to the Respect Your Health project. More than 500 classes already, more than 200 classes, have already registered in Poland to take part in this project. The project is about being active, collecting miles, and depending on how many miles the whole class gathers together, the class can travel around Europe. There is a virtual world in the internet where you can see where your class has traveled. You can visit the cities that you've reached because of the miles you have received. So there are already over 500,000 miles, over 500,000 of miles that have been collected by Polish kids in the Polish primary schools, which is an equivalent of over 80,000 of hours of physical activity. So that has been proven to be a success as well. And I'm really happy that the MOVIT program will also stay after Euro 2012, and it will be a big part of the whole legacy of our project after the whole Euro 2012 has ended.
Thank you. Matthew, there is another study, the health and socioeconomic impacts of the major sports event. It revealed that there is no evidence benefits health impact for the population after a mega event. Is it true?
As I suggested in the previous question, it would seem as though, certainly in terms of the systematic review that was published in the British Medical Journal, there is nothing that is specific in terms of health benefits from events that have taken place up until 2008. That's when the study finishes. However, as I suggested previously, I would very much hope that the cases mentioned before, such as the Euro this year and such as the London Olympics, and certainly in the build-up to the Euro in France in 2016, I would very much hope and actually expect to see some tangible health benefits that would be attached to the legacy, not simply during the event, but a long-term legacy, simply because of the policies that are introduced at a national level in terms of the way in which stadia are run. So that is actually making societal and health objectives part of the business objectives of those stadia, but also in terms of some of the grassroots projects that Jakuba has been part of in the Respect Your Health project, and the raising of health literacy levels And the understanding of behavior change and understanding of simple things that you can change in terms of your lifestyle, such as increased physical activity, not smoking, etc., that will really stem from those events. And that's the type of work that hasn't really been done in previous sporting events. And I think that is simply because the area of social responsibility is now starting to be recognized by national governing bodies and global governing bodies of sport as something that they absolutely have to be involved with, not simply in terms of one-off projects, but things such as a tobacco-free games, such as having games that promote healthier eating, such as games that have no alcoholic beverages being
sold at.
So that's
something you want to really anchor in the long run.
Absolutely. Anchor as part and parcel of the bidding criteria that are attached to tournaments.
So I guess you already have plans for the future European Championship for the Euro 2016.
It's not so much our plans, and I can't speak on our behalf. We'd certainly like to see them, but I am aware that there are some indicators and some minimal targets that will need to be achieved by French Stadia for the 2016 Euros, and they will cover the areas of alcohol, tobacco, physical activity, and diet. We're very pleased to see that.
I heard about your target. Is it no or low alcohol?
I believe that is still open to interpretation.
Thank you, Matthew, and thank you, Mr. Kalinowski. Do you have just one last word, a message that you want to give here to our audience?
I think that at the end of the day, it's up to the organizers and the key stakeholders who are involved into the whole preparation of the mega sporting events, because it all depends on people who work and who prepare that, whether that there's going to be any legacy or not. I would not say that, I would not be very specific to say that the mega sporting events not bring any legacy, but I would say that the people that work, they either think of the legacy and will do their best in order to achieve that, or not to have it at all. So I guess it's all up to people and organizations that are responsible for the process.
But at which level, which organizations, and which people?
I would say on every level. We work a lot on the grassroots level, and we work a lot on the policy level, and I think that when you speak about sustainability, about long-lasting results, I think it takes everyone to understand that in terms of legacy, the legacy requires involvement, cooperation of different stakeholders that have never cooperated before, maybe, which was the case in Poland. Our project brought together a lot of organizations that have never even thought about cooperating one with another. So I think there's a lot about the organizations that coordinate the whole process in order to achieve that. So if we plan that well a couple of years ahead, I'm sure that we can bring that long-lasting legacy. And what Matthew has mentioned already, we might have that in Poland because somebody has thought about it 2 or 3 years ago. So in that sense, I would say that it all depends on us, people who are responsible for the mega event, whether that will bring any legacy or not.
Okay, thank you, Jakub, for this brilliant message. We will be sure to relay it.
Matthew, do you agree with Jakub?
Yeah, very much so. I think there is now a real responsibility for governing bodies of sports, such as the IOC, such as FIFA and UEFA, to really take societal issues such as public health seriously. Environmental sustainability has been something that has been a real flag waver over the last 10 years now in terms of sporting events, and it would be nice to see some of those societal issues such as public health become mainstream in terms of the business objectives of events and not just simply something that's tagged on to the end of events in terms of just a small social program. So it would be great to see that happen more, and I think that is now starting to happen.
Okay.
Thank you very much for having shared with us your experience.
And we'll be right back after a short musical break on sport and citizenship on your radio now.
Everybody's saying that the lights don't shine, but the lights shine down on me. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus.
met him in the parking lot, he took me in his car. I got a new friend, and my new friend's name is Jesus. We rode around all afternoon, he sold me his guitar. I got a new friend, and my new friend's name is Jesus. Now people give me sideways looks when we set up on the strand. It's hard to suck with Jesus in your band. I wish I was with Jesus when I met you. I wish I was with Jesus when I met you. I wish I was with Jesus when I met you. You'd be so impressed with me, you'd give yourself right up to me. Everybody's saying that it's way too warm, but me, I feel a chill. I've got a new friend, and my new friend's name is Jesus. When all those creeps came after me, he paid off all my bills. I've got a new friend, and my new friend's name is Jesus. We drove around all summer long, we parked behind the bars. I've got a new friend, and my new friend's name is Jesus. People say we suck at sports, but they don't understand. It's hard to catch with holes right through your hands. I wish I was with Jesus when you love me. I wish I was with Jesus when you love me. I wish I was with Jesus when you love me. I would have been a better me, that much I can guarantee. Now I'm on your doorstep and you're asking me to leave. Say I don't believe I could ever change so quickly. Say I call the cops, but even if you do, I'll just love them all the way that Jesus loves me. My new friend's name is Jesus. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus.
Sport et citoyenneté.
De retour sur l'émission Sport et Citoyenneté sur 101.3 Euradio Nantes. Nous sommes de retour pour la partie française en présence de trois intervenants. Monsieur Alain Arvin-Béraud, qui est philosophe et administrateur du think tank de Sport et Citoyenneté. Alain, bonjour.
Bonjour.
Florian Kerzero, qui est doctorant sur les grands événements, facteurs de développement territorial. Bonjour Florian.
Bonjour.
Et enfin, monsieur Jean-Bernard Lugadet, qui est secrétaire de l'association Tchèche, qui veut dire salut, bonjour en polonais, qui est le comité sur les initiatives franco-polonaises à Nantes. Tchèche, comme on dit ici. Florian, je vais vous laisser vous introduire un petit peu et nous parler de quel héritage les citoyens peuvent-ils espérer avoir après l'organisation d'un grand événement sportif.
Bonjour, donc Florian Kerzero, justement, je suis doctorant et chargé justement de cette notion de facteurs clés de succès pour l'obtention des grands événements. Et à l'intérieur de ces facteurs clés de succès, il y a la notion d'héritage qui est de plus en plus prise en compte par les donneurs d'ordre, c'est-à-dire par exemple les CIO pour les Jeux Olympiques. Donc à travers cette notion d'héritage, il faut bien comprendre, avant de penser retomber, il est important de comprendre que justement cet héritage demande une synergie entre le site hôte et l'événement. À l'heure actuelle, il y a une dizaine d'années, les événements, on n'en voyait que du bénéfice pour le territoire, alors qu'aujourd'hui on ne peut plus se le permettre. C'est-à-dire que l'événement, ils ne connaissent pas par avance les coûts et les bénéfices et que les décisions sont ainsi prises de manière informelle. C'est-à-dire que les donneurs en ordre ne prenaient pas en compte assez le territoire et maintenant il est vraiment nécessaire de prendre le bon événement pour le bon territoire.
Quels sont concrètement les facteurs clés de succès pour un événement pour laisser à ses citoyens un réel héritage?
Alors vous avez deux types, ce sont les avantages immatériels et les avantages matériels. Alors, ce que l'on entend souvent dans les avantages matériels, vous avez les installations sportives ou infrastructures en général. Vous avez également la pratique sportive. Si on prend l'exemple de la Coupe du Monde de rugby 2007, elle a permis d'augmenter la pratique de 30% en une année, ce qui est vraiment considérable. Et il y a d'autres avantages plutôt immatériels que l'on prend rarement en compte, qui sont par exemple l'acquisition de compétences organisationnelles. Pareil, si on prend également la Coupe du Monde de rugby 2007, il y a eu 300 étudiants spécialisés dans le sport qui ont été embauchés justement pour l'organisation et qui sont maintenant dans beaucoup de fédérations ou dans beaucoup d'autres grands événements.
Voilà. Justement, on a aussi parmi nous Jean-Bernard qui a pu suivre lors de ses séjours la ville de Wrocław et sa montée en puissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Que s'est-il passé pendant l'Euro 2012 en Pologne?
Et évidemment, j'ai assisté à la montée en puissance des installations, soit directement liées à la compétition, soit annexes, dont on parlait un instant, et sur lesquelles je peux avoir mon regard. Alors, la question qui est posée pour un pays pour un pays qui est en croissance comme la Pologne, est-ce que ces équipements seraient venus ou ne seraient-ils pas venus s'il n'y avait pas eu cet événement? Alors, évidemment, les équipements auxquels je fais allusion, c'est les stades. Alors, les stades, la Pologne a fait un effort de construction de stades. On pourrait d'ailleurs sur chacun d'eux raconter de belles histoires. Là n'est pas le lieu. Même si l'histoire du stade national de Varsovie mérite d'être comptée, on pourra en parler tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu évidemment dans un pays où les infrastructures routières héritées du précédent régime étaient assez lamentables, on a vu se développer à la demande de la population le système autoroutier, qui est d'ailleurs mal fait en ce moment pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la compétition.
Une autoroute entre Varsovie et Berlin, c'est assez
compliqué. Voilà, donc il y a eu des soucis au niveau des appels d'offres, etc. Bref, le réseau autoroutier n'est pas au rendez-vous de la compétition. Mais on sait très bien que c'est la même chose dans d'autres pays. Passons là-dessus. Plus intéressant, parce que là, ce n'était pas prévu. À mon avis, c'est une bonne chose parce que je milite pour ces questions dans d'autres lieux. On a vu quand même redonner au réseau de tramway des villes, et je pense à Wrocław, où par exemple le système tramway de plus a été développé. On a vu apparaître de nouvelles lignes de tramway, et en particulier à Wrocław, celle liant le centre-ville, la gare, pour ne pas le citer, au stade. Ce tramway a le bon goût de traverser un quartier populaire qui était jusqu'à présent sans desserte tramway. La gare également, il y a quelques années en Pologne, on supprimait les gares, je pense au détestable exemple de Cracovie. Là au contraire, la magnifique gare de Wrocław, qui avait été construite par les Allemands au temps où la Silésie faisait partie du Second Reich, la gare de Wrocław a été sublimée, a été refaite à l'occasion de l'événement. Alors, l'aurait-elle sans l'événement? Je n'en sais rien. En tout cas, là, c'est un héritage incontestable.
On sent en tout cas que vous vivez vraiment cette transformation à travers l'événement, peut-être un petit peu plus de l'extérieur, mais votre témoignage est tout à fait vivant. Alain Hervin Béraud, vous qui étiez sur place, pour le coup un petit peu plus dans l'événement lui-même, dans le sport, comment avez-vous ressenti cet événement au niveau de l'organisation et de l'accueil sur place?
Oui, alors j'étais quelques jours en Ukraine, hein, donc c'est pas un témoignage complet. Donc je suis allé en Ukraine à Donetsk pour assister au premier match de la France contre l'Angleterre. Et en quelques jours, si vous voulez, on voit les avantages et les travers de ces candidatures, et notamment ce qui a été souligné tout à l'heure, l'absence vraiment d'une procédure, d'un cahier des charges suffisamment précis, édité par celui qui organise la compétition, à savoir l'UEFA.
Si vous voulez bien, on parlera plutôt dans cette première partie des avantages, et je vous laisserai le temps de développer aussi tous les aspects un peu plus négatifs dans un second temps.
D'accord. Alors, parmi les avantages, il est incontestable que le choix de l'Ukraine avec la Pologne, compte tenu de l'histoire de cet ex-pays socialiste, correspond effectivement à une volonté d'ouverture qui a été manifestée par l'UEFA d'ailleurs très fortement. C'est Michel Platini qui l'a impulsé au moment de son élection. Donc il y avait des conditions d'accueil, de réception des supporters qui étaient bonne dans l'organisation. Bon, il y a eu visiblement un aéroport tout neuf qui a été construit à Donetsk, des moyens de transport qui étaient spécifiques aux supporters et aux fans pour rejoindre la fan zone et rejoindre après le stade, la Donbass Arena. Donc il y a eu vraiment un souci de prise en charge, d'accompagnement, y compris avec des personnes qui parlaient anglais, puisque la difficulté quand même dans ce pays, enfin comme dans beaucoup de pays, c'est quelle langue peut-on parler. Donc c'est l'anglais, et la population classique ne parle pas l'anglais, mais là il y avait effectivement des hôtesses et des stewards qui accueillaient et qui ont permis effectivement le bon déroulement, le stade étant remarquable de ce point de vue-là.
Donc l'UEFA a un petit peu pêché dans la phase de préparation, hein, si on comprend bien. Florian Kerzero, oui. vous en parliez tout à l'heure, c'est dans cette phase de préparation qu'on commence à construire cet héritage futur et possible. Là, on a bien compris que les coûts et les bénéfices, c'était pas quelque chose qui pouvait être anticipé. Mais comment préparer ce futur héritage, si tant est qu'il y en ait un, avant la compétition?
Ben justement, je peux prendre l'exemple de Rio Janeiro pour la candidature aux Jeux Olympiques de 2016, qui avait pour objectif, hein, son premier, son grand domaine, finalement, sa grande idée, c'était le sport comme catalyseur d'intégration sociale. Et c'est peut-être ce qui a fait pencher la balance, hein. On n'est pas sans savoir qu'il y a d'autres facteurs, tels le lobbying ou l'image de marque, mais c'est ce qui a pu faire pencher la balance, contrairement aux trois autres candidatures. Et à l'intérieur de cette idée phare, il y avait quatre paramètres intéressants. C'était l'investissement dans des programmes sportifs impliquant l'insertion sociale, la formation au sport d'élite, le développement d'infrastructures, donc comme disait monsieur Lugadet pour l'exemple de la Pologne sur tout ce qui est infrastructure, réseau routier. Là, ils ont pris l'optique de faire un métro vraiment immense, j'ai pas les chiffres en tête, mais plus de 100 km de métro, donc ce qui est vraiment très très intéressant. Et le quatrième paramètre, c'était la promotion des grandes manifestations. Donc on voit bien que là, ils avaient une stratégie globale, ils ont pris une idée phare et quatre paramètres. Ce que ne font pas ou peu d'autres organisateurs, et ce qui leur a permis, eux, d'obtenir, en tout cas, c'était un des facteurs de l'obtention de cette candidature.
Jean-Bernard, pour revenir sur la Pologne, quels ont été les effets touristiques sur ce pays?
Alors, je n'en sais rien. En tout cas, ils ont perdu deux clients, mon épouse et moi-même, puisque ma belle-sœur m'a dissuadé d'aller en Pologne pendant la manifestation. Et donc, je ne peux pas vous en parler. Par contre, il est clair que le message est clair sur le tourisme. À la télévision polonaise que nous regardons, nous voyons beaucoup de spots tendant à présenter des supporters étrangers heureux d'avoir vécu en Pologne. Alors, par contre, là où je me pose une question, pour moi, ces supporters que l'on montre sont contents parce qu'ils ont bien traité, ils ont vu des jolies filles, ils ont bu de la bière, ils ont bien mangé, ce qui en Pologne maintenant ne pose plus aucun problème. Et par contre, je fais remarquer que, pour des raisons sordides et assez politiques, la ville de Cracovie, qui je pense est le symbole de la Pologne touristique, a été écartée de la compétition. Et je pense quand même qu'il y a une forte dichotomie entre, d'une part, l'image que l'on veut donner de la Pologne, qui est réelle, hein, c'est un pays où j'encourage de faire du tourisme, même dans des villes auxquelles on ne pense pas, alors que les aspects qui, moi, m'intéressent en Pologne, un pays de grande culture, un pays varié, etc., dans ce cadre-là, moi, je pense qu'elles ont été occultées.
Merci, monsieur Lugadet. Nous insisterons un petit peu plus sur ces aspects superficiels et sur cet écran de fumée que vous semblez mentionner ici dans une deuxième partie, après une courte page musicale.
Sport et citoyenneté.
De retour sur notre émission, l'organisation des grands événements, quels héritages pour les citoyens. On a le plaisir d'avoir Alain Harvard-Béraud qui est philosophe et nous souhaiterions que vous nous fassiez partager votre expérience sur comment construire réellement une communauté à travers un événement, comment on fédère finalement la population autour d'un projet de manière durable.
Eh bien, de manière un peu paradoxale, je pense que c'est la tendance aujourd'hui sur laquelle il faut que les organisateurs d'événements réfléchissent, c'est-à-dire ça ne peut pas être que le sport. Si c'est le sport, il y a peu de chances que ça suffise à construire une communauté et il y a peu de chances encore que ça suffise à développer un héritage. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que les valeurs sociétales qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes dans le sport à tous les niveaux soient intégrées dès le départ dans le cahier des charges de l'organisateur. Autrement, il n'y aura pas de communauté. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles en France on a des échecs réguliers aux Jeux Olympiques, d'une part, et puis il faut regarder aussi au plan international que non, il n'y a pas que le sport officiel type football, rugby, fédéral, on dira, qui organise des événements internationaux qui sont très attractifs. Il y a le golf, par exemple, bon, qu'on connaît, ça reste encore dans la Fédé. Et puis je prendrais par exemple l'organisation des Homeless World Cup, c'est-à-dire la Coupe du Monde du football, de football des sans-abri. C'est à mon avis une illustration parmi d'autres que la nécessité pour un organisateur qui veut réussir son implantation quelque part dans le monde, hein, ce qui est le but de la FIFA, du CIO ou autre, c'est impérativement d'apporter un plus, pas uniquement en termes d'équipement sportif et de structure, mais d'apporter un plus au niveau de la population.
Est-ce qu'on n'a pas besoin également d'un message politique derrière? Et que, si j'ai bien compris, voilà, ce que vous dites, le sport est un outil au service de politiques, voilà, sociales plus larges.
Je vais vous donner un exemple très concret, précis, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, il se trouve que j'étais aux Jeux Olympiques de la jeunesse, d'hiver de la jeunesse, en janvier dernier à Innsbruck. Innsbruck est une grande ville des Alpes, sinon la capitale des Alpes, qui a déjà organisé deux éditions des Jeux Olympiques d'hiver officiels. Et quand il y a quelques années, il a été question de postuler pour un troisième accueil des Jeux Olympiques d'hiver, la population a refusé. Par contre, quand il a été question d'accueillir les premiers Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse, la population a exprimé une majorité en faveur, parce qu'effectivement, il y avait plusieurs paramètres. D'abord, il y avait un cahier des charges avec des équipements et des investissements qui étaient extrêmement réduits. Et là, il s'agissait d'un plafond qui était arrêté par le CIO, donc c'était même pas un plancher, c'était un plafond. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait des formats mixtes, des formats sportifs qui étaient à la fois avec des garçons, des jeunes filles, sur des compétitions un peu innovantes. Et puis, il y avait cette dimension culturelle et éducative qui faisait que des Jeux Olympiques de la jeunesse portaient vraiment le sport comme étant un moyen d'insertion, de citoyenneté.
Et pas une fin en soi.
Et pas une fin en soi, voilà.
On a compris ce message et voilà, il est important. Florian Kerzero, est-ce que c'est une opinion que vous partagez, vous qui étudiez ces méga-events, comme on les appelle en anglais, pendant cette phase opérationnelle véritablement des événements? Est-ce qu'il faut une réelle volonté politique et quelque chose peut-être de plus large qui serait mené par le pays organisateur, par son gouvernement, voire l'Union européenne?
Oui et non, mais après c'est vrai que ça dépend déjà d'une, comment dire, de la grandeur de l'événement. Si c'est un événement de type retombée régionale, cela peut être pris par la région. Mais après, il est quand même question pour beaucoup de coûts pour le contribuable. C'est quand même ce qui est néfaste pour le contribuable, et il y a également des dommages supportés par les résidents lors de la création des infrastructures ou autres. Donc l'idée peut-être, ce qui commence à se développer, c'est de faire des candidatures, des co-candidatures. Si l'on prend l'exemple d'une piste de bobsleigh au JO d'hiver, qui est un coût faramineux pour une utilisation très faible, peut-être l'idée ce serait de prendre la piste la plus proche de la candidature, candidature qui a été retenue et de l'utiliser et non pas d'en créer une à chaque fois. Là, ce sont des dépenses qui deviennent, surtout vu les temps qui courent, ça commence à devenir un petit peu inutile, si je puis dire.
On parle d'héritage pour les citoyens. On met beaucoup de mots, d'éthique, de valeurs, on l'entend un peu partout. Mais est-ce que finalement, on ne déguise pas aussi un petit peu la vérité pour justement dans le but d'avoir seulement cet événement ou ces subventions?
Alors, j'ai un exemple très concret. Je lisais notamment un magazine de stratégie la semaine dernière, un exemple très concret concernant les Jeux Olympiques de Londres, qui se veut être les Jeux les plus verts jamais organisés, avec des initiatives de type recueil, réutilisation de l'eau, utilisation de l'eau, comme l'enceinte de Wimbledon, ou également la location d'appartements olympiques aux populations défavorisées après l'événement. Mais il y a quelque chose d'un petit peu antinomique, c'est qu'ils sont soutenus économiquement par deux firmes pétrolières qui sont liées récemment à des catastrophes environnementales, qui leur permet, eux, à ces firmes, d'avoir une image, d'être associés justement à une image verte et qui ne l'est pas et qui, du coup, insatisfait pleinement la population actuellement et qui engendre, voilà, qui est néfaste pour l'image des Jeux Olympiques de Londres.
De réels conflits d'intérêts qui vont aussi parfois plus loin et qui se transforment en mécanisme de corruption. Monsieur Lugadet, vous sembliez tout à l'heure évoquer ces aspects négatifs vraiment sur le terrain en Pologne, cet événement un petit peu en trompe-l'œil finalement pour la population locale.
Alors, il y a quand même un problème, c'est l'avenir des stades. Compte tenu de la faible intensité du championnat de football en Pologne, on peut se demander ce que deviendront ces grandes arènes. Par contre, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dans un pays démocratique extrêmement divisé sociologiquement, politiquement, comme la Pologne, l'utilisation du supporter polonais, celui qui est peinturluré en blanc et rouge, qui a des chapeaux ridicules, comme tous les supporters qui viennent en Pologne et en Ukraine en ce moment, moi, ça m'a intéressé. C'est quand même assez nouveau, ça, comme élément d'identité nationale. Alors, ça sort des vieux clichés du nationalisme polonais. Par contre, la question, c'est le supporter ou le hooligan, et ça n'est pas résolu. Hein. J'ai beaucoup aimé, par exemple, quand la télévision a fait savoir que les prisons avaient été vidées dans les villes qui accueillaient les matchs pour faire savoir qu'elles étaient prêtes à recevoir les supporters. Je ne pense pas qu'elles ont été utilisées à ces fins, mais ce message était intéressant. Finalement, c'est assez troublant, ces grands événements. Il y a vraiment un aspect qui est, à mon avis, fédérateur. Il y a quand même des indices qui prouvent qu'ils ont quand même un impact assez modeste.
On voit souvent justement quelques aberrations de ce type. Alain Varbero, vous pouvez peut-être revenir sur votre expérience lors de l'Euro 2012 en Ukraine, sur les aspects qui vous ont choqué.
Oui, je voudrais dire deux choses là, sur les stades là, qui viennent d'être évoqués. C'est là encore, je veux dire, le modèle de stade tel que notre ami l'évoque, effectivement, qui a été construit en Pologne, montre bien que ce sont des modèles qui sont datés. Mais c'est pas du tout la Pologne qui est en cause, puisque en France, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'un équipement sportif qui n'a qu'une destination sportive, voire qu'une destination d'une discipline, aujourd'hui ne peut pas tourner, ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une socialisation des équipements, ce qui est le modèle économique qui est en train de se développer en Europe et qui va avancer et qui parfois choque, mais c'est-à-dire pour avoir une rentabilité, il faut non seulement avoir un sport, il faut avoir plusieurs manifestations et il faut l'ouvrir au sport pour tous autrement. Et un équipement sportif qui est environné de commerce, de parcs, comme c'est le cas en Allemagne, voire d'une église, d'un cimetière, comme c'est aussi le cas en Allemagne, c'est-à-dire qui sont des lieux de pratique sociale, a montré, toutes les études ont montré, qu'il y avait une baisse des incivilités qui était considérable dans cet équipement-là. Donc voilà, ça c'est un petit point que je voulais apporter en complément de ce qu'a dit notre ami sur la Pologne. Qui est tout à
et brièvement, le temps nous est malheureusement compté. Pouvez-vous revenir juste sur votre expérience un petit peu en Ukraine, en quelques mots?
Ce que je voulais dire, ça concerne principalement l'organisateur, à savoir l'UEFA et la Fédération Française de Football, qui tout le monde a vu qu'il y avait très peu de Français dans les stades, que ce soit à Donetsk ou à Kiev, notamment à Donetsk. Donc je veux dire, quand une fédération qui La Fédération du sport le plus populaire en France organise un déplacement pour aller voir un match. L'avion au départ de Paris, on voit le match et on rentre le soir. Et par individu, ça coûte exactement 875 euros. C'est pas possible de porter des valeurs sociales ou sociétales dans ce type de proposition qui est faite. Et l'UEFA s'est rendu compte, et moi je me suis rendu compte, au niveau des tarifs des hôtels, le peu de jours qu'on a passé, c'est qu'effectivement, nous sommes rabattus sur un hôtel après avoir vécu dans le camp de toile qui était un peu épique, le moins qu'on puisse dire, où c'était 80 euros la place sur un lit en bois. Donc nous sommes rabattus sur un hôtel où nous avons trouvé un hôtel de très belle qualité, à 60 euros la chambre, parce que les entreprises locales avaient fantasmé un peu sur la possibilité de vendre des chambres à 300 euros. Et comme l'UEFA en a annulé la moitié,
c'est quelque chose que Michel Platini avait soulevé, effectivement.
Voilà, tout à fait.
On voit bien les limites et les dérives de ces grands événements. Florian Kerzero, vous nous avez vraiment éclairé sur ces différentes phases, comment appréhender cet événement, comment le construire, comment le gérer pendant qu'il dure. Et comment fait-on ensuite vraiment pour voir cet héritage? Est-ce que c'est quelque chose qui est mesurable? C'est quelque chose de palpable pour les habitants?
C'est assez difficile actuellement. Il n'y a pas de mesure où chacun en fait un petit peu à sa sauce, si je puis dire. Il y a quand même une étude qui a pu retenir notre attention, qui a été effectuée par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, donc sur justement la Coupe du Monde 2007, qui mesurait la notion de rentabilité sociale. Alors, c'est-à-dire que trop d'études ont été faites sur les retombées économiques sans cesse. Par contre, là, c'est la notion de rentabilité sociale qui a retenu leur attention. D'un côté, mesure des bénéfices sociaux, donc c'est-à-dire à travers la satisfaction des spectateurs et le soutien de la population. Et d'un autre côté, les aspects plutôt négatifs, donc les coûts, c'est-à-dire le coût pour le contribuable et les dommages rapportés par les résidents. Et ils ont fait un ratio qui leur a permis de mesurer sur la prestation. Après, il y a d'autres mesures qui sont faites sur du 2, 3, 4 ans, mais c'est vrai que c'est assez peu effectué sur une décennie ou plus.
Je vous remercie, Florian. On voit bien que de nombreux pays hôtes essaient de rentrer dans les clous en proposant des programmes plus éthiques, un héritage pour les citoyens après les événements. La Pologne a bien su s'en servir, la preuve, elle a su acquérir des fonds, aller chercher des fonds du FEDER, de la Commission des institutions européennes. Nous vous remercions d'avoir suivi avec nous ce débat. Nous vous proposons de retrouver toute la suite et le reste de nos émissions sur www.sportetcitoyenneté.com, et surtout n'hésitez pas à visiter notre site, car notre nouvelle revue scientifique est enfin sortie, donc notre revue avec un dossier spécial sur la corruption dans le sport, un sujet brûlant plus que d'actualité qui sera développé lors de notre prochaine émission. Merci beaucoup.
Merci à tous, merci à nos intervenants, à nos invités pour la qualité de leurs interventions. Nous nous retrouvons pour le prochain épisode le mois prochain.
Sport a obtenu.
Sport und Staatsbürgerschaft.
Euradio Nantes vous a présenté Sport et citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne. Pour plus d'informations et pour réécouter ce programme, rendez-vous sur euradionantes.eu.